Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Il est 8h sur Europe 1.
Nous savons que les taux de vaccination sont plus faibles dans les zones rurales et c'est pourquoi nous allons acheminer les vaccins plus près que jamais des résidents ruraux.
Si vous n'allez pas au vaccin, le vaccin viendra à vous. Joe Biden le sait, la campagne vaccinale ne sera efficace que si elle touche tout le monde. Un enjeu très clair aussi en France, il faut se servir de toutes nos doses et protéger toute la population, les sans-abri, notamment le dossier d'Europe 1 dans un instant. D'autres campagnes dans ce journal. Campagne électorale avec l'apaisement chez les Républicains. Campagne napoléonienne avec notre documentaire Europe 1 et les meilleurs livres de référence sur l'empereur. Et la campagne européenne du PSG qui s'arrête là pour cette saison. Reste à voir si Mbappé et Neymar survivront à ce petit Trafalgar. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité est un manipulateur diabolique pour les uns, grand connaisseur d'histoire pour les autres. Bref, le politologue Patrick Buisson n'a jamais laissé indifférent. Il revient avec un nouvel ouvrage choc. Rendez-vous à 8h15 pour en parler.
C'est juste après ce journal. Tout à l'heure, Sonia. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Les marathoniens parlent d'un mur, celui auquel ils se heurtent autour des 30 km quand il en reste une douzaine. La campagne de vaccination pourrait ressembler à un marathon avec son début hésitant, puis le rythme qui est pris et la fin qui semble s'étirer. Les dernières personnes vaccinées étant les plus dures à aller chercher. Joe Biden aux États-Unis a réussi son départ, le cap des 200 millions de doses administrées il y a deux semaines. Presque facile avec les méga vaccinodromes dans les stades des grandes villes. Le président américain a une solution pour la suite.
À partir de la semaine prochaine, nous allons expédier de nouvelles doses de vaccins aux cliniques rurales. Ainsi, les Américains qui ne vivent pas à proximité des 75 000 sites de vaccination auront de nouvelles options qui seront peut-être plus proches que ce qu'ils pensaient. Nous savons que les taux de vaccination sont plus faibles dans les zones rurales et c'est pourquoi nous allons acheminer les vaccins plus près que jamais des résidents ruraux.
Il y a les ruraux, il y a aussi tous ceux que Joe Biden veut aider à sauter le pas de la vaccination en leur donnant un petit coup de pouce, une incitation.
Oui, le président américain négocie avec les chaînes de supermarchés qui font souvent pharmacie en même temps, un vaccin et une promo sur le ticket de caisse des courses de la semaine. Hypothèse réellement en préparation. Des tarifs réduits aussi pour assister à des matchs sont en négociation avec les grandes ligues sportives.
En France, les mêmes questions se poseront. Hein. Pour le moment, la population ayant reçu au moins une dose est presque deux fois plus faible qu'aux États-Unis. Mais déjà, il y a déjà des trous dans la raquette.
Oui, on pense aux personnes qui n'ont pas accès au numérique pour prendre un rendez-vous, mais aussi à tous les sans-abri. Message d'alerte et début de solution qu'est venu apporter Pascal Brice ce matin sur Europe 1, lui qui préside la Fédération des acteurs de la solidarité.
De la part des associations, de notre part, un travail de communication vers les personnes qui sont à la rue, en organisant l'accès depuis les centres d'hébergement vers les centres de vaccination. Donc les associations sont mobilisées, mais il faut aussi que ça devienne très vite une priorité pour les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la vaccination, sur les critères d'âge et puis au-delà, parce qu'encore une fois, vous savez, ce sont des gens qui très souvent cumulent des difficultés, notamment sur le plan de la santé, et qui donc ont vraiment un besoin de cette vaccination. Et moi, je fais d'ailleurs une suggestion, parce que vous voyez bien, notamment pour les personnes à la rue, le Johnson, qui est un vaccin avec une seule injection, est une vraie chance. Donc ma suggestion, ce serait qu'elle puisse bénéficier de ce Johnson dès qu'il sera largement en place, assez rapidement, dans les meilleures conditions possibles.
Le vaccin Johnson dont parle Pascal Brice, qui était l'invité du 5-7 d'Europe 1 au micro de Sébastien Krebs.
Et puis il y a ce risque, ce paradoxe, une campagne trop lente et des millions de doses qui ne seraient pas utilisées.
Oui, celle d'AstraZeneca, 3 millions de doses de ce vaccin sont prêtes à être injectées aujourd'hui en France. Seuls les plus de 55 ans peuvent les recevoir. Décision prise après quelques cas de caillots sanguins recensés, mais le ministre Olivier Véran l'expliquait hier, ici même sur Europe 1. Il attend un avis de la Haute Autorité de Santé qui permettrait aux volontaires de tous âges de recevoir l'AstraZeneca en signant une décharge.
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne veut pas lâcher ce vaccin.
Oui, sauf que la défiance des Français pour le vaccin AstraZeneca existe bel et bien. Depuis le week-end dernier, il n'y a plus que 27 000 injections de ce vaccin par jour, contre 75 000 il y a encore deux semaines. Une défiance qui tombe au plus mauvais des moments puisque la France vient de recevoir un stock de 2 millions de doses. Et pour les écouler, le gouvernement imagine toutes les possibilités. Mais pour Jean-Paul Hamant, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, cette idée de décharge n'est vraiment pas la bonne.
On est vraiment très surpris que le gouvernement propose de demander aux patients de signer une décharge, parce que en fait, c'est dégager l'État de ses responsabilités, et ça m'étonnerait que cette proposition aille au bout.
Selon nos informations, la Haute Autorité de Santé ne se prononcera pas sur cette possibilité de décharge pour les patients, mais elle pourra peut-être élargir la vaccination avec AstraZeneca au moins de 55 ans. Il faudra d'abord que l'instance s'appuie sur des données scientifiques solides, et si la HAS allait dans ce sens, l'idée serait aussi d'informer davantage les patients sur les risques même minime du vaccin AstraZeneca.
Victor Dolande, merci, spécialiste santé d'Europe 1. On voit bien avec vous, hein, avec les pistes aussi de Joe Biden, l'enjeu de cette couverture maximale, totale, et comment y parvenir entre réticence et difficulté d'accès.
L'apaisement chez les Républicains au terme d'une journée de réunion. Renaud Muselier, président sortant de la région PACA, garde finalement le soutien du parti de la droite pour les élections du mois de juin.
À une condition, qu'il n'y ait aucun accord avec La République En Marche, sauf qu'hier soir, au même moment, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, voyez les choses autrement en répondant à cette question sur LCI.
Est-ce qu'à l'arrivée, oui ou non, il y aura des représentants de La République En Marche sur la liste
Bien sûr.
De Renaud Muselier ?
Mais évidemment, c'est le sens de ce rapprochement, de cette alliance qu'il y a avec Renaud Muselier, mais qui sera très large. Il l'a dit lui-même, il a une majorité régionale sortante, qui est la colonne vertébrale, et puis vous avez d'autres formations politiques et d'autres représentants politiques qui viennent s'y agréger au service de l'intérêt général. Moi, je suis assez, je dois le dire, surpris, voire sidéré par une forme d'inversion des valeurs que j'observe depuis quelques jours.
Gabriel Attal. L'actualité économique en France. Après une année 2020 marquée par une baisse record des recrutements, l'année 2021 devrait être celle du rebond.
Le rebond léger, mais tout de même, Olivier Samin, c'est la touche d'optimisme que nous donne l'enquête de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre publiée hier.
Oui, 2 723 000 projets d'embauche cette année, soit 1,1% de plus qu'en 2019, qui était la dernière année, entre guillemets, normale, pouvant donner lieu de ce fait à comparaison. Voilà ce qui ressort de l'étude menée par Pôle emploi. Les entreprises ont l'intention de recruter, surtout les petites. 2 projets d'embauche sur 3 viennent des PME de moins de 50 salariés. Avec une forte hausse dans la construction, les métiers de la santé, aides-soignants infirmiers, et les métiers de l'aide à domicile. Et à l'opposé, une baisse, qui ne surprendra personne, crise sanitaire oblige, dans l'hôtellerie-restauration, les métiers artistiques et l'animation socioculturelle. Est-ce là aussi un effet de la crise ? Les entreprises interrogées par Pôle emploi considèrent qu'elles auront globalement un peu moins de difficultés qu'il y a 2 ans pour mener à bien leur projet de recrutement d'ici à la fin de l'année. Même si, dans certaines spécialités, les employeurs continuent de s'arracher les cheveux en tête des recrutements perçus comme les plus difficiles, charpentiers, couvreurs, aide à domicile, aide ménagère ou encore carrossier, mécanicien et électronicien automobile.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Il y a 200 ans exactement, le 5 mai 1821, disparaissait Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'Atlantique Sud.
Très loin de Waterloo, mais aussi d'Austerlitz et d'Iéna. Aujourd'hui, c'est un président de la République qui va commémorer l'exercice du pouvoir d'un empereur, Emmanuel Macron, à l'Institut de France et aux Invalides. Et sur Europe 1, vous allez savoir tout ce que vous ignoriez sur Napoléon avec le podcast original diffusé ce soir dans Europe Soir, entre 18h20 et 19h, podcast écrit et raconté par Laure d'Autriche.
Oublions tout ce que l'on sait déjà et découvrons le vrai Napoléon, un chef d'État qui ne partait pas faire la guerre sans se parfumer des pieds à la tête d'eau de Cologne par souci d'hygiène.
Il mettait ce flacon dans ses bottes et comme ça il avait toujours de l'eau de Cologne sur lui. Vous savez, c'était un élixir, l'eau de Cologne, donc finalement l'élixir, on le boit comme un médicament.
L'empereur a rétabli l'esclavage, créé le code civil et le baccalauréat, tout cela on le sait déjà. Dans les archives nationales, les noms des premiers lauréats sont inscrits à la plume sur des bouts de parchemin. Mais le bac, instauré en 1808, était un moyen de sélectionner l'élite de la nation sans viser l'égalité entre les élèves.
Les études au lycée sont payantes. Par conséquent, nécessité de moyens fait que le baccalauréat ne s'adresse pas à tous.
Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue.
Il y a une chose qu'aujourd'hui on ne peut pas supporter, et à raison, il est revenu sur l'abolition de l'esclavage. Gardons-nous de faire des anachronismes, c'est-à-dire ne jugeons pas l'histoire à l'aune de notre regard d'aujourd'hui.
Stéphane Bern, que l'on entend dans l'extrait de ce podcast, Napoléon, cet inconnu, diffusé donc ce soir et dès à présent sur Europe1.fr et toutes les plateformes d'écoute.
Pour mieux le connaître, il y a aussi les livres, et en la matière, on pourrait remplir des bibliothèques entières. Nicolas Carreau nous sert de guide ce matin.
On estime à plus de 70 000 le nombre de livres écrits sur le sujet, mais ils ne se valent pas tous, bien sûr. Parmi les incontournables, l'empereur des livres consacrés à Napoléon s'intitule « Le mémorial de Sainte-Hélène » d'Emmanuel de Lascaz. Ce sont les mémoires, tout simplement, de Napoléon Bonaparte, des souvenirs et des considérations de l'empereur recueillis, compilés et mis en forme par Lascaz. C'est la référence avec ce que le livre compte de subjectivité, évidemment. On peut lire aussi « Chronique de Sainte-Hélène, la petite histoire de l'île chamboulée depuis l'arrivée de l'exilé prestigieux, l'auteur Michel d'Anquan-Martineau est consul honoraire, gardien de Longwood, la maison de Napoléon. Si vous voulez des images, de nombreuses bandes dessinées racontent l'épopée et des beaux livres aussi, notamment Napoléon, l'esprit des lieux chez Michel Lafon, c'est une biographie visuelle. Deux photographes ont parcouru la planète sur les traces de Bonaparte. Les textes sont de Jean-Christophe Buisson. Et puis, vous pouvez piocher en toute confiance dans les livres de trois grands historiens spécialistes, Jean Tullard, Thierry Lenz ou David Chantrane.
Ce qui laisse encore un peu de choix, Nicolas Carreau. La grêle anglaise et le ciel qui tombe sur la tête des Parisiens. La Ligue des champions de football ne verra pas deux années de suite le PSG en finale qui a perdu 2-0 hier soir sur le terrain de Manchester City. Défaite logique des Parisiens, inefficace, fébrile. L'autre demi-finale retour ce soir, Chelsea-Real Madrid.
Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour.
Désormais le PSG doit finir la saison en Ligue 1 et penser à son effectif de l'an prochain. On pense bien sûr au duo Mbappé-Neymar.
Oui, Manchester City a gagné en équipe là où le PSG a sombré avec ses individualités. Mbappé a assisté impuissant du banc au naufrage de son équipe et Neymar a joué seul sans faire la différence. Les deux stars, dont les contrats expirent en juin 2022, entretiennent le suspense quant à leur avenir. Alors le Brésilien a répété qu'il était très heureux à Paris, mais entre ses blessures à répétition, il a tout de même manqué près de la moitié des matchs de son équipe cette saison. Et son manque d'impact lors de la demi-finale, le PSG a peut-être intérêt à réfléchir, d'autant que Neymar, 29 ans, dispose d'un salaire XXL, plus de 36 millions d'euros par an, qui pèse lourd, très lourd dans les finances du club. Alors que Mbappé, lui, n'a que 22 ans, il fait rêver le monde entier. Mais ce revers pourrait inciter le crack de Bondy à changer de club. Alors dans l'immédiat, Paris doit sauver sa saison. Il reste une demi-finale de Coupe de France à Montpellier. Trois matchs de championnat. À commencer par un déplacement à Rennes dimanche pour espérer remporter le titre.
Cyril de la Morinerie. Et puis pour vous consoler, Mathieu de Paris qui a perdu, je voulais vous faire entendre la joie de Benoît Paire qui a gagné.
Et ça me console.
J'espère. Quelques cris. Voilà. Bamo, c'était sur le bord du terrain, une sorte de story avec quelques Français qui étaient là avec Corne de Brume au premier tour du tournoi Masters 1000 de Madrid. Première victoire en 11 matchs hein, pour Benoît Paire qui se satisfait d'une ambiance de Coupe Davis, dit-il.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.